musique.
Notre invité aujourd'hui, c'est Cyril Félix. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Léo.
Merci beaucoup d'être au micro de Radio Campus, d'être avec nous dans les studios. Alors Cyril, il y a beaucoup de choses à dire sur vous. On va parler musique évidemment, car vous êtes pianiste.
Oui.
Professeur au Conservatoire de Bordeaux, mais pas seulement, puisque vous êtes aussi directeur de l'école de musique de Saint-Bruno et tuteur au PESMD, donc c'est le pôle d'enseignement supérieur de musique et de danse Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine, c'est bien ça?
Tout à fait, c'est ça, oui.
Alors avant d'attaquer, on a plein de choses à voir. On a le duo Ohana que vous avez créé avec votre acolyte Artavast Khachatryan. On va parler aussi d'un concert qui nous attend ce vendredi.
C'est ça.
Mais avant toute chose, on aimerait connaître votre formation musicale, Cyril.
D'accord. Bien, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi de passer ce soir et juste avant en plus notre prochain concert sur Bordeaux. Alors moi j'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans. J'ai un parcours assez classique, on va dire, en termes d'apprentissage. J'ai fait le conservatoire et puis très vite, à 9 ans, je voulais faire ce métier. Je voulais être musicien et professeur particulièrement d'ailleurs.
Ah oui, vous avez trouvé votre vocation très tôt.
Oui, très très tôt, très très tôt, et j'ai jamais changé d'avis. Et maintenant, c'est une chose que je ne regrette pas, j'ai toujours cette passion de transmettre un savoir. En plus, nous, on est en tradition orale, beaucoup, sur tout ce qui est interprétation, tout ce qui est méthode de travail. Il n'y a pas de livre ou de choses très écrites en fait. Et quand on a eu la chance d'avoir des grands maîtres, ce qui a été mon cas, eh bien c'est toujours un devoir en fait de le transmettre au plus grand nombre, dont Artavast fait partie. Voilà.
Alors c'est amusant ce que vous dites, parce que vous dites que dans votre enseignement, en tout cas, ça se fait surtout de manière orale, donc il n'y a pas une pile de livres à acheter, c'est ça?
Alors si, il y a des partitions, effectivement, les partitions des compositeurs, mais ensuite tout ce qui est interprétation, tout ça, ce n'est pas écrit. La façon de faire, de s'approprier le texte, le geste, tout ça, ce n'est pas écrit sur la partition. Donc, et il y a des visions, bien sûr, différentes d'un pianiste à un autre, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça qu'on a des versions de la même pièce complètement, complètement différentes, et c'est l'intérêt d'ailleurs.
Voilà. Et cette manière d'enseigner, elle est courante au conservatoire? Parce que souvent, quand on pense conservatoire, on pense à des méthodes très spartiates, hein, très strictes.
Oui, non, en fait, le conservatoire, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, c'est vraiment tourné sur le projet de l'élève, et du coup, on s'adapte quand même beaucoup sur ça, hein. C'est très important pour nous.
Alors, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour un étudiant pour mener un bon cursus au conservatoire de Bordeaux ?
L'assiduité, je dirais, puis surtout, la première chose, c'est l'envie. L'envie de faire de la musique et puis de la partager. Parce que, bon, en piano, on est souvent seul. Mais bon, c'est pas une fin en soi, forcément, de jouer tout seul. Et c'est très agréable de jouer avec d'autres.
Et vous pourrez nous en parler. On en parlera dans quelques instants de votre fameux duo, de votre piano à quatre mains.
Oui.
Mais avant toute chose, puisqu'on est, aussi une radio étudiante, hein, on s'intéresse au cursus, aux études.
Oui.
Donc là, les études musicales, comment ça se passe, un cursus au conservatoire?
Alors, on peut commencer tout petit. Depuis quelques années, on débute carrément les élèves, ce que l'on ne faisait pas à mon époque. On devait avoir fait du piano avant ou de la clarinette et passer un examen d'entrée. Maintenant, on peut commencer au conservatoire directement. Et y a des cycles. Premier cycle qui correspond un petit peu à l'école primaire, second cycle au collège, puis troisième cycle. Donc tout ça, ça constitue la pratique amateur. Et ensuite, pour ceux qui veulent se destiner à une carrière musicale, il y a le CPES, le cycle professionnel d'enseignement supérieur. Voilà.
Donc c'est ce qui différencie le conservatoire d'une école de musique finalement, c'est qu'il y a d'un côté la pratique amateur,
oui,
et de l'autre la formation professionnelle.
C'est ça. La pratique amateur, ça représente quand même un gros pourcentage, hein. Très peu d'élèves veulent en faire leur métier. Mais effectivement, le conservatoire est habilité à mener les élèves jusque-là.
Et pourquoi les élèves ne voudraient pas en faire leur métier ? Parce que c'est formidable de faire de la musique et d'en vivre.
Oui, 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 mais bon, sur 2000 élèves, forcément, le pourcentage après... il y en a beaucoup qui veulent faire de la musique uniquement pour leur plaisir.
Donc finalement, qu'est-ce qu'il advient des étudiants qui sortent du conservatoire après ?
Alors, beaucoup continuent, créent des groupes, jouent avec d'autres, des amis, ou alors deviennent des mélomanes, des gens qui vont fréquenter les salles de concert, justement, et ça, c'est pour notre plus grand plaisir.
Et au Conservatoire de Bordeaux, ce sont quels instruments qui sont pratiqués que l'on peut apprendre ?
Ouais, tous.
Absolument tous.
Ah oui, oui, oui. Il y a un département de musique baroque, un département donc musique classique, ce qu'on appelle musique classique, donc avec tous les instruments, hein, polyphonique, cordes, vent, bois, cuivre. Et puis aussi un département qui est relativement récent, de musique actuelle. Donc vous voyez, il y a vraiment tout. Il y a jazz, hein. Ce qui est nouveau aussi. Quand j'étais petit, ça n'existait pas non plus, ça. Donc vraiment, le conservatoire est très, très ouvert maintenant à tout style de musique.
Donc il s'est développé, justement, cette ouverture. C'est le propre de tous les conservatoires en France, on peut dire ça ?
Pratiquement, oui.
Pratiquement, d'accord. Oui. Et selon vous, alors ça c'est une question un peu large, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un bon enseignement de la musique et un mauvais ? Est-ce qu'il y a des mauvaises manières d'enseigner la musique aux jeunes ?
Probablement.
Parce que quand on parle des personnes qui ont étudié la musique, qui ont appris, qui ont pratiqué un instrument,
oui.
on a vraiment de tous les avis. Il y a ceux qui ont adoré, il y a ceux qui ont détesté, il y a ceux qui voulaient pratiquer mais qui n'aimaient pas la manière dont ils l'apprenaient en école de musique au conservatoire. À quoi c'est dû ça ? Est-ce que c'est ça ?
Alors, je crois que le professeur fait beaucoup. Évidemment, il faut avoir un feeling, une confiance réciproque. Donc ça, c'est très important. Et puis, je pense que tout à l'heure, j'ai parlé du projet de l'élève. Et je pense que quand on est enseignant, on doit se préoccuper de cela, du projet de l'élève. Pourquoi est-il là ? Quelle est son ambition, en fait, avec l'instrument, avec la musique en général ? Sinon, on peut effectivement lui proposer des programmes d'apprentissage qui vont pas lui correspondre et ça ne le fera pas, quoi, ça marchera pas. Après, il y a des enfants aussi qui sont un petit peu obligés de faire du piano parce qu'il y a un piano à la maison, alors qu'ils auraient voulu faire de la guitare. Enfin voilà, il y a beaucoup de profils, c'est très difficile de répondre, de généraliser pour avoir une réponse.
Et il y a l'apprentissage du solfège aussi.
Oui. Il y a l'apprentissage, alors on n'appelle plus ça solfège, on appelle ça formation musicale.
Ah.
C'est beaucoup plus varié en fait, et aussi beaucoup plus ludique. Hein, donc, mais c'est vrai que cette notion de l'apprentissage du solfège reste ancrée dans la mémoire collective, et on a du mal à le, malgré tous les efforts que l'on fait, on a du mal à le faire disparaître. En fait, le solfège est une matière à l'intérieur du cours de formation musicale et aussi à l'intérieur des différents cours que pratiquent les élèves au sein de l'établissement.
Donc voilà. Dans ces formations musicales, il y a plus de dictée sur des gammes ou sur des
si,
morceaux.
Bien sûr, il peut y en avoir, mais pas seulement. C'est pas dirigé uniquement sur les dictées ou la théorie. C'est vraiment beaucoup plus riche et beaucoup plus varié.
C'est une méthode qui a évolué pour le plus grand bonheur des étudiants. Donc
oui.
Ce sera moins traumatisant que ça ne pouvait l'être. Il y a peut-être années, moi quand je faisais de la musique quand j'étais petit, pareil, le solfège, je détestais ça. J'ai encore des frissons rien que de repenser à ces fameuses dictées, puis l'apprentissage des clés d'huttes. Mon Dieu, quel cauchemar.
C'est vrai.
Mais bon, j'avais des amis aussi qui étaient très contents, hein, qui ça leur plaisait, tant mieux pour eux. On va parler maintenant du duo Ohana que vous avez créé, Cyril, donc c'est avec votre acolyte, Artavast. Oui. Est-ce que vous pouvez... Donc Artavast, qui était votre élève.
Oui.
Comment s'est créé ce duo, justement ?
Alors, au tout début, un petit peu par hasard, parce qu'on nous a demandé de jouer pour un concert. Et puis, on avait déjà eu l'idée de... on se disait, tiens, ça serait bien qu'on fasse du quatre mains ensemble, maintenant qu'on est collègues. Et puis, on nous a proposé de faire un concert, donc on a monté un quatre mains un petit peu à la va-vite. Et puis, on s'est rendu compte que musicalement, on se comprenait sans se parler, très facilement. Et du coup, c'est devenu comme une évidence que bah, fallait continuer et puis travailler justement sur le long terme et créer. Et puis on a créé ce duo, voilà, le duo Ohana.
Quand vous en parlez, c'est vrai que ça paraît être une évidence, mais pourtant pour faire du piano à quatre mains, il faut une connaissance parfaite de la personne avec qui on joue. Et oui. Cette connaissance, enfin ce lien, il s'est créé comment justement ?
Alors. Bon, je le connais depuis qu'il est au collège. Hein. Donc, je l'ai eu en horaire aménagé, au lycée. Donc, ça fait peut-être une vingtaine d'années que je le connais. Et en plus d'être mon élève, ensuite, bon, bah, on est resté en contact, on est devenu amis. Voilà, il y a tout ça a fait que on se connaît très bien et musicalement, évidemment, je pense que le fait d'avoir travaillé ensemble aide énormément pour on sait il sait où je vais musicalement où je sais où il va et voilà, on n'a pas besoin de s'arrêter pour dire tiens, on va construire notre interprétation, on va faire ceci ou cela, ça serait mieux. Non, on le sent, et même sur les concerts, on arrive à fabriquer des choses sur le moment qui ne sont pas forcément prévues, mais parce que l'acoustique fait ou le moment fait que on a envie de prendre un peu plus de temps et de profiter de certaines notes davantage. Et du coup, on communique avec les bras. Puisqu'on ne peut pas parler et voilà, ça, on se suit quoi.
Ah, et ça, on peut se le permettre, ce genre de petite création, oui. Même quand on interprète une partition.
Ah ben bien sûr, oui.
C'est là tout l'intérêt du quatre mains en fait.
C'est là tout l'intérêt même de la musique, parce que si on fait simplement la restitution d'un texte, bon ben c'est pas très intéressant en fait. Il faut aller au-delà.
Ah là, je vous rejoins, Cyril. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail donc votre acolyte, Artavast Khachatryan ?
Oui, alors Artavast, il est né en Arménie, à Erevan, et il est arrivé, il devait avoir, je crois, 11 ans, un petit peu à Bordeaux, et voilà, et il a suivi toute sa scolarité, donc en horaire aménagé. C'est les enfants qui font école le matin et conservatoire l'après-midi. Donc il était déjà lui aussi très passionné et très engagé dans la musique et dans sa formation. Et puis voilà, il a continué, il est allé au conservatoire de Rueil, puis à la haute école de Genève. Et voilà, et puis maintenant nous sommes collègues puisqu'il est professeur de musique de chambre au conservatoire de Bordeaux. Ouais. Voilà.
Et qu'est-ce que vous proposez au public comme période musicale quand vous faites des concerts tous les deux ?
Alors nous allons du baroque au contemporain. Alors là, nous avons construit par exemple pour le concert de vendredi un programme autour des danses. Alors avec des danses connues, un petit peu des pubs comme des danses très connues, des tubes, pardon.
Des tubes. Voilà.
Et nous avons, comme les danses hongroises de Brahms, par exemple, ou la suite Peer-Gynt de Grieg, voilà, des choses qui sont vraiment connues d'un large public, car utilisées justement dans la pub, ou dans le cinéma, ou dans les dessins animés, donc vraiment il y en a pour tous les âges. Et à chaque fois, on essaie de mettre des œuvres aussi beaucoup moins connues. Là, on a des danses de Mel Bonis, qui est une compositrice, et aussi une danse qui s'appelle Night de Fazil C, compositeur turc, qui est un pianiste contemporain et un compositeur contemporain. Voilà, on essaie de à la fois rendre accessible avec les tubes, mais en même temps, on se donne un devoir de... nous faisons découvrir voilà, des choses nouvelles ou qui ont été un petit peu négligées dans le passé, suivant les époques.
Voilà. Avec voilà, ces fameux tubes, notamment.
Voilà.
Est-ce que ça, c'est pas une technique aussi pour attirer un public qui n'est pas très familier de la musique de chambre ou de la musique classique et qui se dirait qu'il n'aime pas ça ?
Oui. Alors, c'est une façon, effectivement, je crois, d'attirer des gens qui ne vont pas forcément dans les salles de spectacle classiques, en tout cas. Notre objectif, effectivement, c'est aussi de rendre la musique accessible à tous et de voir que, bon, ben, on peut très bien écouter du jazz ou du rap et aimer la musique classique aussi. Donc l'ouverture d'esprit que l'on dégage, je pense, et ça on le voit aussi dans l'enseignement avec les élèves, quand on est ouvert d'esprit sur le répertoire, petit à petit, quand ils sont réfractaires à un compositeur ou à une période, petit à petit, ils y viennent.
Ah, d'accord.
Ouais. Et donc, tout ça, c'est une éducation de l'oreille, donc c'est assez long. Et pour le public, je pense que c'est un peu la même chose. Il faut donner un petit peu ce qu'ils ont envie, et en même temps, on peut se permettre de leur faire rencontrer des nouveaux compositeurs. Voilà.
C'est un peu ce qui se passe. Je ne sais pas si vous connaissez le violon sur le sable qui a lieu à Royan tous les étés.
Non.
C'est avec l'orchestre de l'Opéra de Paris.
Oui.
Qui viennent. Bon, alors c'est de la musique classique amplifiée.
Oui.
Mais voilà, ils piochent un peu dans tout le répertoire, évidemment des choses très connues, mais un peu moins au fur et à mesure des années des choses que seuls les amateurs peuvent connaître, ou en tout cas s'intéresser. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne idée de varier les registres pour parler à tout le monde. Et contenter tout le monde, ça ne doit pas être facile, non ?
Non.
Ça existe encore le snobisme parmi les amateurs de musique classique qui, justement, si on leur propose une danse hongroise de Brahms, vont dire « Bon non, ça, on l'a écouté déjà 10 000 fois.
Peut-être.
Ça ne m'intéresse pas. » C'est pour les néophytes, voilà.
Oui. Alors ouais. Ça, c'est possible, mais en même temps, c'est pas tellement le public que l'on cible. Donc, je dirais que ce n'est pas très grave. Tant pis.
Tant pis pour eux.
Oui, tant pis. Après, comme je vous disais, on essaie de revisiter les partitions. Et donc, elles sont à chaque fois... l'interprétation, elle est propre à chaque artiste. Donc, bon.
Alors, on peut retrouver le programme de votre concert avec Artavast sur le site de bordeaux.fr.
Oui.
Voilà, donc il y aura du Mel Bonis, du Grieg, du Brahms, Fazil C. C'est vous qui avez choisi ce programme, évidemment.
Oui, on l'a choisi ensemble, oui, oui. Le Fazil C. Alors, la valse de Khachaturian, c'est vraiment une très jolie valse, un très, très joli morceau qui va très bien avec la période de Noël. Voilà, c'est très sympa. Et puis on a aussi le Fazil C qui est où on va utiliser une technique du piano qui est complètement méconnue. On va se lever et jouer on va étouffer les cordes et on joue, donc ça fait des sons complètement inhabituels au niveau du piano, et bon voilà, c'est très surprenant. Et cette pièce a toujours beaucoup de succès, et notamment au niveau des gens qui ne sont pas forcément des mélomanes. Ça les intrigue et ça leur plaît énormément. Donc on est ravis, c'est une pièce qu'on met souvent dans les concerts.
Ah oui, bah ça a l'air tout à fait surprenant, en effet. Donc c'est un concert qui a lieu ce vendredi, ça a lieu où, Cyril ?
Oui, alors c'est à la Maison Saint-Louis-Beaulieu, à Bordeaux, rue de Saint-Genès. Voilà.
Voilà, ça commence à 20h.
Oui.
Et les prix sont tout à fait accessibles.
Oui, tout à fait. C'est 15 euros le tarif plein, 8 euros pour tous les étudiants. Donc, pouvez venir tous les, vous pouvez inviter tous les étudiants du campus. Et puis, gratuit pour les élèves du conservatoire, nous avons fait, et les élèves du Pôle Sup, de Saint-Bruno, voilà.
Donc on attend un public nombreux et varié surtout, qui aime la musique,
oui,
avant tout.
Voilà, exactement. Et qui aura pas envie de passer un bon moment aussi en toute simplicité, parce que on essaie de communiquer, pas simplement de jouer. On essaie de toujours de parler et d'échanger aussi entre les œuvres et après le concert.
Ah, très bien. Donc oui, vous adressez au public entre les œuvres, et puis à la fin on peut,
oui,
échanger avec vous.
Tout à fait, oui.
Voilà, en toute liberté.
On explique un petit peu le programme. On fait pas de programme papier. Déjà comme ça on est un petit peu écolo, et puis on préfère présenter les œuvres que l'on va jouer. Ça donne une plus de proximité avec le public, on trouve.
Alors, il y a quelques petites règles, notamment si vous avez des néophytes complets qui viennent vendredi. Pour le public, il ne faut pas faire de bruit, évidemment, on ne tousse pas, on se retient, hein, pendant les morceaux.
Oui.
J'avais le souvenir d'un concert à l'auditorium de Bordeaux, où il y avait une dame qui s'était faite gronder voilà, par les musiciens. Elle s'était raclée la gorge. Bon, ça arrive.
Oui, ça arrive.
Malheureusement.
Oui. Ça arrive, les portables aussi, ça arrive.
Et oui, voilà, un grand fléau des musiciens du 21e siècle.
Oui.
Donc évidemment, on vous invite, chers auditeurs, à venir ce vendredi, donc pour ce fameux concert de Noël, d'un piano à quatre mains pour le duo Anna. Alors, c'est plutôt un piano à cinq mains, parce qu'il y a une personne qui tourne les pages de manière frénétique, hein, de la partition.
Oui, tout à fait. On a toujours un tourneur ou une tourneuse de pages, effectivement. On ne pourrait pas s'en passer, parce que ça va trop vite. Et on serait, bon, en répétition, bien sûr, on le fait, mais on est obligé de lâcher une main. Donc, oui, on a toujours quelqu'un qui nous tourne les pages. Et il faut que ça soit quelqu'un qui déjà connaisse la musique, parce que il faut lire vite.
Donc Cyril, on vous retrouve vendredi avec votre acolyte Artavazd.
Merci
et
beaucoup.
Et puis on peut apprendre la musique, le piano, avec vous au Conservatoire de Bordeaux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vendredi alors ?
Beaucoup de public.
Beaucoup de public et puis de belles interprétations, encore du beau jeu, tous les deux. Merci énormément d'être venu à Radio Campus.
Merci à vous.
Très très beau concert.
Merci Léo.
Campus Bordeaux.